Vous écoutez France Musique.
Léonard de Vinci a dit de la guerre qu'elle est la plus bestiale de toutes les bêtises.
14-18, petite musique d'une grande guerre. Aujourd'hui, 14-18, petite musique d'une grande guerre, évoque les relations entre les États-Unis et le Canada français croissantes pendant la guerre. L'occasion de découvrir trois personnalités se démarquant de l'ordre établi, Guillaume Couture, Léopold Morin et Rodolphe Mathieu, une émission de Cynthia Dubois.
À Radio-Canada, du haut de mon 15e étage, j'ai le Saint-Laurent à mes pieds et je ne me lasse pas de suivre son cours en rêvant, de voyager avec lui d'ouest en est, comme l'ont fait les militaires de la Grande Guerre. Je contemple mon fleuve qui, inlassablement, emporte dans son immensité un peu des villes et des villages qui le bordent, vers la Gaspésie, l'Acadie, Terre-Neuve, et plus loin encore, vers les vieux pays. Et j'aime imaginer que ces alluvions se déposent et reposent sur les plages de la Normandie, de la Bretagne ou de l'Aquitaine, avant de rentrer au pays, rapporté par les flots. Et je m'émerveille de ces grandes traversées, de cet incessant va-et-vient de la terre et de l'eau, des hommes et de la musique.
Les unes en jolies filles qu'il y avait dans ces lieux, à chaque fois que je la regarde, mon cœur s'élève jusqu'aux cieux. Je l'ai fait habiller en page, sur mon cheval l'ai fait monter, tout droit au logis de mon père, par malheur je l'ai amené. Or il a pris son épée claire, dans son sein blanc il l'a plantée, la belle tombe à la renverse, et son amant reste pâmé. Où dormez-vous, ma mite en blanche? Où dormez-vous, sommeillez-vous? Non, ni je dors, ni ne sommeille, votre père m'a mise au tombeau. Tenez, galant, voilà les bagues que vous me donniez tendrement. En souriant, je les ai prises, en trépassant, je vous les rends.
Mamie en blanche, chanson française très ancienne qui a traversé l'Atlantique avec les premiers colons et qui, d'après ce que m'en a dit son interprète, Charlotte Cormier, est aujourd'hui complètement inconnue en France. Mais elle a survécu en Acadie. Aujourd'hui, trois musiciens qui ont fait cette grande traversée et qui sont rentrés au pays avec une envie féroce de sortir des rangs et de vivifier le milieu musical. Je les aime tout particulièrement, car, dans une société relativement soumise, où le silence était d'or au nom de la rectitude, ils ont eu le courage de tempêter, de provoquer, de dénoncer, et de ne reculer devant aucun effort pour que le Canada français se dote d'un véritable réseau d'enseignement musical, autre que religieux, de salles de concert, d'instrumentistes, de chœurs et d'orchestres professionnels, et pour que la composition soit autre chose qu'un simple passe-temps. Permettez-moi de vous présenter tout d'abord un précurseur, le bouillant Guillaume Couture, né en 1851 et décédé en 1915. Il effectue 2 séjours à Paris. Il fréquente alors les Dubois, Fauré, Zinsens, Bucine, Franck. Il dirige la maîtrise de Sainte-Clotilde et plusieurs de ses œuvres sont jouées. Et lorsqu'il rentre au pays, c'est avec la volonté de transmettre tout ce qu'il a reçu. Voici une esquisse de ce personnage haut en couleur, raconté en musique et aussi grâce au témoignage de son petit-fils, Jean Papineau Couture, lui aussi compositeur, décédé en l'an 2000.
Ses exigences musicales sont telles qu'il se chicane avec tous ses curés les uns après les autres. Il passe d'une église à l'autre, aussi bien aux églises protestantes qu'aux églises catholiques, ce qui le fait honnir par tous les ultramontains à Montréal, et il y en avait. Il recommence à faire de la critique musicale, là aussi il se met tout le monde à dos. Il est chef d'orchestre, il fonde une symphonie puis une autre symphonie parce qu'il ne s'entend pas non plus avec ses musiciens. C'était un homme extrêmement exigeant.
Espoir que le destin t'apporte. 1875 dans un Montréal très sous-développé au point de vue musical. On y avait quelques nullités installées. Et Guillaume Couture, pour mieux élever les standards à Montréal, avait cessé de composer pour diriger et enseigner pendant au-delà d'un quart de siècle. Alors, il s'est remis à composer. Il n'avait pas écrit pendant 30 ou 35 ans. À ce moment-là, la plume devient beaucoup plus difficile. Il n'en reste pas moins que, si on la juge avec les standards de l'époque, l'œuvre de Guillaume Couture fait facilement la comparaison avec beaucoup d'autres œuvres qu'on nous joue aujourd'hui sans penser à les critiquer.
Portrait succinct de Guillaume Couture, raconté par son petit-fils, le compositeur Jean Papineau Couture, et ponctué d'un extrait de son Quatuor Fugue, composé en 1876, donné à Paris et joué par le Quatuor Morency. Nous avons écouté Souvenir avec le baryton Russell Brown et la pianiste Carolyn Mole, et ce portrait était complété par un court extrait de l'oratorio Jean le Précurseur avec les chœurs et l'orchestre métropolitain sous la direction de Jean-François Sénard. Cette œuvre, terminée en 1911, a été publiée à Paris en 1914. La première était prévue à Montréal la même année, mais n'a pu avoir lieu à cause de la guerre. Couture meurt en 1915 sans l'avoir entendu. Et après sa disparition, l'essor qu'ont connu les chœurs et les sociétés musicales stagne. L'enseignement redevient inégal. Toujours ni conservatoire ni faculté de musique, et si l'on s'en tient à Montréal, qui compte tout de même plus de 700 000 habitants, la ville n'a pas d'orchestre depuis 1899, pas d'université francophone, ni de véritable salle de concert. Par ailleurs, la Grande Guerre ayant coupé le Canada de l'Europe, l'axe des échanges va bientôt s'orienter nord-sud. En plus des artistes américains, on voit venir au Québec l'Orchestre symphonique russe, fondé et dirigé par un ami de Scriabine émigré aux États-Unis en 1893, et vient également le pianiste-compositeur d'origine ukrainienne Léo Ornstein.
Thank you.
Le pianiste canadien Marc-André Hamelin jouait « Chant funèbre dans les tranchées », écrit en 1917 par le pianiste et compositeur ukrainien naturalisé américain Léo Ornstein. Sa venue au Québec et celle de l'orchestre russe vont nourrir un important débat entre anciens et modernes, régionalistes et exotiques. De plus, des voix vont s'élever qui dénoncent les lacunes du milieu musical, timidement on tente d'y remédier, et les Canadiens français étant férus de chant, l'art lyrique va se doter d'une association pour promouvoir les jeunes talents et d'une école. Mais en dépit de ces louables efforts du milieu musical, c'est la mort dans l'âme qu'un élève de Guillaume Couture, le jeune pianiste, critique et compositeur Léopold Morin, rentre au pays à cause de la guerre. Pris d'Europe 1912, il a étudié à Paris et il a assisté entre autres à la création du Sacre du printemps de Stravinsky. Fort de ses découvertes, il rapporte en plus de la nouvelle musique russe les œuvres françaises modernes que lui a fait découvrir l'un de ses maîtres, Ricardo Vignès. Pour ce jeune homme, tout aussi exigeant et incandescent que son premier maître Guillaume Couture, le milieu musical et la plupart des œuvres canadiennes du moment font triste figure.
On semble croire que je porte toute mon attention sur l'art de l'étranger et que je néglige la vie musicale du pays. Certes, j'admire beaucoup l'art de l'étranger et particulièrement l'art moderne de la France et de la Russie. Je ne peux pas me défendre d'admirer ce qui est. L'art musical canadien n'est pas. Hormis quelques exceptions, on peut confondre toutes les œuvres, mêler les titres et les signatures. La plupart de nos musiciens sont encore en 1880. Ils ne voient pas au-delà de Saint-Saëns. Et ils poussent des cris devant les hardiesses, les vérités, les beautés de l'art contemporain. La musique moderne est différente de toutes les autres avant elle. Mais c'est de la meilleure et de la plus belle, de la plus humaine, quoi que l'on dise. Il y a tout de même une différence entre des musiciens comme Debussy, Ravel et un Saint-Saëns, ce brûleur de Dieu, ce classique affamé, oublié dans le XXe siècle.
Réflexion de Léopold Morin, incrusté dans « Oiseau triste » de son ami Ravel, qu'il a maintes fois joué, interprété ici par le pianiste canadien André Laplante. Pendant la guerre, un contemporain de Léopold Morin compose trois préludes. Qui est-il? Eh bien, il s'appelle Rodolphe Mathieu et il est né en 1890. Surprenant, voire déroutant Mathieu. Autodidacte qui a quitté la petite école après 5 années d'études, d'une curiosité dévorante, il va se forger une pensée toute personnelle sur le monde et sur la musique avant même d'aller à Paris en 1920. Pour Mathieu, composer n'est plus une fonction accessoire, un simple passe-temps, mais bien un métier à part entière. Et l'œuvre traduit la personnalité profonde de son créateur. Elle ne répond plus aux diktats classiques de la bourgeoisie ou des nationalistes qui voudraient puiser dans le folklore l'essence d'une musique soi-disant canadienne.
Le nationalisme consiste non pas à chanter l'âme nationale, mais à la laisser chanter sur tous les sujets possibles, ce qui est bien différent. Il est possible de concevoir une musique immense, aux vastes lignes mélodiques, aux rythmes soutenus, aux harmonies riches et variées, aux sonorités de forêt donnant la sensation d'immensité, de grandiose dans la douceur comme dans la force. Ce vocabulaire sonore canadien est tout à créer.
de Rodolphe Mathieu, composé avant son départ pour Paris, entre 1912 et 1915, nous avons écouté trois préludes avec l'orchestre métropolitain sous la direction de Gilles Auger. Lorsqu'il rentre de Paris, Mathieu enseigne, anime des soirées musicales et dirige même sa propre société d'édition. Mais il finira par délaisser la composition en 1936. Prétexte, s'occuper de la carrière de son fils André, pianiste et compositeur. Mais peut-être aussi Mathieu était-il là de voir son œuvre systématiquement rejetée par ses contemporains. Cela étant, les débats nés pendant la Première Guerre mondiale, les efforts de Mathieu, de Léopold Morin et de plusieurs autres acteurs de la scène musicale porteront leurs fruits. Devant le nombre de compositeurs, d'ensembles et d'interprètes qui connaissent une renommée internationale aujourd'hui, on ne peut qu'applaudir les progrès accomplis en si peu de temps. Encore que rien ne soit jamais véritablement acquis. Avec l'érosion progressive des moyens financiers accordés par l'État aux institutions et aux musiciens, bien malin, qui peut prévoir l'avenir? Pour en savoir davantage sur Mathieu et ses contemporains, je vous invite à consulter le livre passionnant de Marie-Thérèse Lefebvre, Rodolphe Mathieu ou l'émergence du statut professionnel de compositeur au Québec, ouvrage publié aux éditions du Septentrion. Merci à Claude Saussier d'avoir prêté sa voix à Rodolphe Mathieu, ainsi qu'à Pierre Thérien pour Léopold Morin.
C'était 14-18, Petite musique d'une grande guerre, une émission proposée aujourd'hui par Cynthia Dubois, en coproduction avec les radios francophones publiques, réalisée par Cynthia Dubois, Patrick Lérisset et Benjamin Vignal.